これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Cédric Châtelus.
Et à la réalisation, François Connac. De quoi le mythe de Sisyphe est-il le nom ? D'un châtiment infligé par les dieux à celui qui eut l'audace de les berner deux fois et d'enchaîner la mort. D'une condamnation à porter une pierre jusqu'au sommet d'une montagne avant qu'elle ne retombe. Bref, de l'inutilité, de la vanité, de la beauté des activités humaines. Car se battre, lutter, s'indigner est une fin en soi qui n'est soutenue par aucun espoir ni étayée par aucune foi, sinon l'étrange fidélité qui vaut à un homme d'accepter sa condition, d'entendre le néant lui commander de bien faire et de se contenter de vivre sans trouver de raison à cela. Sisyphe n'est pas un dieu, mais Sisyphe est un héros s'il le veut, et tous les hommes en sont là.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Je ne m'intéresse pas au suicide philosophique, mais au suicide tout court. Je veux seulement le purger de son contenu d'émotion et connaître sa logique et son honnêteté. Toute autre position suppose pour l'esprit absurde l'escamotage et le recul de l'esprit devant ce que l'esprit met à jour. C'est ici qu'on voit à quel point l'expérience absurde s'éloigne du suicide. On peut croire que le suicide suit la révolte, mais à tort, car il ne figure que son aboutissement logique. Il est exactement son contraire, par le consentement qu'il suppose. Le suicide, comme le sceau, est l'acceptation à sa limite. Tout est consommé, l'homme rentre dans son histoire essentielle. Son avenir, son seul et terrible avenir, il le discerne et s'y précipite. À sa manière, le suicide résout l'absurde. Il l'entraîne dans la même mort. Mais je sais que pour se maintenir, l'absurde ne peut se résoudre. Il échappe au suicide dans la mesure où il est en même temps conscience et refus de la mort. Il est à l'extrême pointe de la dernière pensée du condamné à mort, ce cordon de souliers qu'en dépit de tout il aperçoit à quelques mètres, au bord même de sa chute vertigineuse. Le contraire du suicidé, précisément, c'est le condamné à mort.
Couché, je passe les mains sous ma tête et j'attends. Je ne sais combien de fois je me suis demandé s'il y avait des exemples de condamnés à mort qui eussent échappé au mécanisme implacable, disparu avant l'exécution, rompu les cordons d'agent. Je me reprochais alors de n'avoir pas prêté assez d'attention au récit d'exécution. On devrait toujours s'intéresser à ces questions, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme tout le monde, j'avais lu des comptes rendus dans les journaux, mais il y avait certainement des ouvrages spéciaux que je n'avais jamais eu la curiosité de consulter. Là, peut-être, j'aurais trouvé des récits d'évasion. J'aurais appris que dans un cas au moins, la roue s'était arrêtée, que dans cette précipitation irrésistible, le hasard et la chance, une fois seulement, avaient changé quelque chose. Une fois. Dans un sens, je crois que cela m'aurait suffi, mon cœur aurait fait le reste. Les journaux parlaient souvent d'une dette qui était due à la société. Il fallait, selon eux, la payer. Mais cela ne parle pas à l'imagination. Ce qui comptait, c'était une possibilité d'évasion, un saut hors du rite implacable, une course à la folie qui offrit toutes les chances de l'espoir. Naturellement, l'espoir, c'était d'être abattu au coin d'une rue, en pleine course et d'une balle à la volée. Mais, tout bien considéré, rien ne me permettait ce luxe, tout me l'interdisait, la mécanique me reprenait.
Donc on a entendu deux textes. On a entendu d'abord un texte du mythe de Sisyphe que nous avons lu, puis le texte, vous avez sûrement reconnu la voix d'Albert Camus qui lit son propre texte dans L'étranger. Et j'aimerais revenir en fait sur le premier texte, parce qu'à chaque lecture, à chaque fois, je glisse et ma compréhension a du mal à saisir la syntaxe de la phrase ou quelque chose qui m'échappe. C'est lorsqu'il dit « il est à l'extrême pointe, de la dernière pensée du condamné à mort, ce cordon de souliers qu'en dépit de tout, il aperçoit à quelques mètres ». Qu'est-ce que symbolise ce cordon de souliers ? C'est quoi ? C'est le désir du condamné à mort de vivre encore lorsqu'il aperçoit ce qui reste ?
Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites avec un cordon de souliers ?
C'est se suicider.
Eh oui, vous pendez.
Je comprends à l'instant, ça m'échappait, ça me résistait à chaque fois.
Vous vous pendez. D'ailleurs, j'ai pour mémoire, j'ai pas le texte sous les yeux, mais j'ai pour mémoire qu'il me semble que l'épigraphe des noces de Camus, c'est un extrait des chroniques italiennes de Stendhal, dans lequel il parle d'un d'un prêtre ou d'un curé qui est égorgé. Vous l'avez.
Je l'ai.
Vous l'avez. Dites-moi.
Que je l'ai, oui.
Il est étranglé avec un ruban.
Le bourreau étrangla le cardinal Carafa avec un cordon de soie qui se rompit. Il fallut y revenir deux fois. Le cardinal regarda le bourreau sans daigner prononcer un mot.
Voilà, le cardinal et le bourreau, et surtout le cordon de soie, c'est l'équivalent du cordon de soulier. C'est la même chose, cordon, cordon, dans les deux cas. C'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont le condamné à mort est privé, ben c'est de la possibilité du suicide, au fond. Le condamné à mort est, au fond, dispensé de prendre en charge la difficulté de vivre, puisqu'on va l'en soulager, qu'il le veuille ou non. Il y a, entre la condamnation à mort et le suicide, la différence qu'il y a entre la liberté et l'aliénation. Alors, vous avez toute une tradition philosophique pour expliquer, notamment Spinoza, que le suicide n'est pas un acte de liberté, n'est pas un acte de souveraineté. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit vraiment le problème de Camus ici. Et vous vous souvenez, Paola, d'ailleurs, dans la chanson de Trenet, je chante. À la fin, il se tue. Ficelle, tu m'as sauvé de la vie. C'est une ficelle, c'est un cordon. Le cordon, la ficelle, c'est la possibilité d'en finir. C'est la liberté d'en finir, c'est la possibilité de donner son quitus à l'existence et de dire allez, ciao.
Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc bénie. Car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim et je chante sur mon chemin.
Le condamné à mort est dans une situation où rien ne lui semble plus désirable que l'existence qui, si elle ne menaçait pas de lui être ôtée, lui serait sinon indifférente, en tout cas douloureuse. Souvenez-vous, Paola, de la peau de chagrin. Souvenez-vous de la peau de chagrin. Raphaël de Valentin, au début du livre, est désespéré, Fedora ne le regarde pas, il n'a plus d'argent, elle ne voit plus Pauline, il est perdu, il est désespéré. Il jette crânement 2 louis d'or sur une table de jeu qu'il perd et il sort avec la ferme intention de sauter dans l'eau, de sauter dans la Seine. Bon. Et il voit une petite lumière, une échoppe, il entre dans l'échoppe, puis il rencontre là-bas le marchand qui lui présente le talisman, qui peut exaucer tous ses désirs. Il se dit « je m'en fous après tout, je veux bien vivre 6 mois de plus si c'est pour jouir, puisque de toute façon j'avais l'intention de mourir ». Donc il prend la peau de chagrin et immédiatement tous ses désirs sont exaucés, mais il comprend très tôt que c'est aux dépens de sa vie. Et le même homme qui voulait se suicider au début, pour X raisons, on ne sait pas trop. Chagrin d'amour, peine de cœur, ruine, désespoir, ambition trahie, ce qu'on voudra. Bon, on sait jamais vraiment. Le même homme qui voulait se suicider au début du livre est absolument désespéré d'être condamné à mort par un talisman qui rétrécit son existence à mesure que ses désirs sont exaucés. Je n'ai pas envie, j'aurais l'impression d'être moins précis et moins exact en vous répondant en termes conceptuels, si vous voulez, à la question de savoir ce qui distingue le suicidé et le condamné à mort, qu'en le faisant par cet exemple. D'abord parce que, comme dit Camus, on ne pense bien que par image. Et voyez comme il est aisé de comprendre à quel point un homme qui veut se tuer peut être désespéré ensuite de découvrir qu'il est condamné à mort. C'est aisé à comprendre. Mais 2 choses. D'abord, c'est difficilement explicable et surtout, c'est pas logique. C'est pas logique. Il faut bien prendre la mesure de la détestation que Camus a pour la logique, qui pour lui est véritablement ce que, alors là pour le coup non pas l'humanité, mais l'inhumanité fait de pire. C'est ça qui compte, je crois, hein. C'est à quel point c'est compréhensible sans être logique. Le contraire du suicidé, précisément, c'est le condamné à mort. La figure de Raphaël de Valentin incarne ces deux personnages. Après, on pourrait rentrer dans les détails. On peut dire que le condamné à mort n'a pas le choix, que le suicidé, lui, il a le choix, que le condamné à mort, il a l'espoir, alors que le suicidé, lui, ne l'a pas. Enfin, bon, il y a toute une série de nuances.
Par rapport à l'espoir, on voit dans le texte ce qu'en dit Meursault. Qu'est-ce que c'est que... Il le dit avec une pointe ironique. L'espoir, après tout, c'est d'être abattu au coin d'une rue pendant sa fuite.
Oui, alors son espoir, c'est celui-là. Oui, mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça fait quelques secondes de plus. C'est déjà ça. Encore 1 minute. L'espoir, c'est déjà ça. Sauf que le problème de l'espoir, c'est qu'il nous maintient dans le refus d'assumer notre condition. Et c'est un mystère, hein, l'utilisation que Camus fait de ce mot, puisque c'est un mot qu'il déconstruit rigoureusement, systématiquement, dans le mythe de Sisyphe, dans Nos, Dans l'étranger, et c'est pourtant le nom qu'il a donné à sa collection, en hommage à André Malraux, mais enfin à la collection qu'il a créée chez Gallimard. Donc il y a là quelque chose d'assez paradoxal, il faudra s'interroger sur le statut de l'espoir chez Camus, et notamment le statut de l'espérance. Mais pour en revenir à cette distinction initiale, la différence entre le suicidé et le condamné à mort, on la comprend quand on pense à un homme qui, voulant mourir, se voit désespéré, un, de vivre, deux, de constater que sa vie est désormais soumise à un talisman et réduite à mesure que ses désirs sont exaucés. Et contrairement à toute attente, il ne désire plus rien. Il ne peut plus rien désirer dans la mesure où il se sait condamné. Le même homme qui voulait mourir est désespéré de sentir qu'il meurt. Il y a peut-être quelque chose d'abstrait dans la condamnation à mort que l'expérience du suicide contribue à guérir, en un sens. Je ne sais pas. En vérité, je ne le sais pas plus que ça. Il y a dans les textes de Camus des phrases qu'on peut expliquer à l'infini parce qu'elles sont elliptiques. Et que l'ellipse qui les porte en fait des matières à penser extraordinaires, en fait des fragments vivants. Il faut faire droit à ça. Le contraire du suicidé, c'est le condamné à mort. Voilà. Il faut s'en contenter. Il me semble que cette phrase en elle-même est suffisamment claire et inexplicable pour rentrer en résonance avec le cœur et non pas le cerveau de nos auditeurs.
Et peut-être juste une petite distinction sur la phrase qui a ouvert ce texte qu'on a lu. Donc, je ne m'intéresse pas au suicide philosophique, mais au suicide tout court. Qu'est-ce qu'il appelle un suicide philosophique ?
En fait, ce qu'il appelle ici un suicide philosophique, c'est le suicide organisé, planifié, décidé, conforme à une certaine vision du monde. C'est-à-dire, c'est le suicide qu'on déduit d'un regard sur le monde. C'est le suicide... C'est Kirillov. Moi, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas.
J'avais pensé à suicide philosophique. Je pensais, par exemple, lorsqu'il fait référence à Chestov ou à Kierkegaard, qu'ils parlent de suicide philosophique parce qu'ils suicident leurs pensées en faisant le saut vers l'au-delà ou la religiosité pour Kierkegaard.
Peut-être c'est vous qui avez raison.
J'avais interprété ça comme suicide philosophique.
Si on suit la perspective que vous proposez, ça veut dire qu'un suicide philosophique, c'est l'avènement d'une parole enfin adaptée à ce qu'on essaie de dire. Au fond, tant qu'on est dans la philosophie, dans la logique, dans les concepts, on manque un peu le réel dont l'étoffe est trop fine pour être saisie par des outils si grossiers. Donc le suicide philosophique, ce serait l'abolition de la philosophie, un devenir poétique de la philosophie, ou cinématographique, ou romanesque de la philosophie. Pourquoi pas?
Un degré plus bas, et voici l'étrangeté. S'apercevoir que le monde est épais. Entrevoir à quel point une pierre est étrangère, nous est irréductible. Avec quelle intensité la nature, un paysage, peut nous nier. Au fond de toute beauté, gît quelque chose d'inhumain. Et ces collines, la douceur du ciel, ces dessins d'arbres, voici qu'à la minute même, ils perdent le sens illusoire dont nous les revêtions, désormais plus lointains qu'un paradis perdu.
L'hostilité primitive du monde, à travers les millénaires, remonte vers nous. Pour une seconde, nous ne le comprenons plus, puisque pendant des siècles, nous n'avons compris en lui que les figures et les dessins que préalablement nous y mettions. Puisque désormais, les forces nous manquent pour user de cet artifice. Le monde nous échappe, puisqu'il redevient lui-même. Ses décors, masqués par l'habitude, redeviennent ce qu'ils sont. Ils s'éloignent de nous. De même qu'il est des jours où, sous le visage familier d'une femme, on retrouve comme une étrangère celle qu'on avait aimée il y a des mois ou des années, peut-être allons-nous désirer même ce qui nous rend soudain si seuls. Mais le temps n'est pas encore venu. Une seule chose, cette épaisseur et cette étrangeté du monde, c'est l'absurde.
À partir du moment où elle est reconnue, l'absurdité est une passion, la plus déchirante de toutes. Mais savoir si l'on peut vivre avec ces passions, savoir si l'on peut accepter leur loi profonde, qui est de brûler le cœur que dans le même temps elles exaltent, voilà toute la question. L'absurdité comme une passion, Raphaël ?
Oui, comme une passion. Et la plus déchirante de toutes. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? On a vu que l'absurde, c'était pas un objet, mais que l'absurdité venait d'une rencontre, d'un choc. D'un choc. Alors, c'est un choc qu'il faut pas regarder de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un choc dont, Quand on en lit le détail ou la description dans le mythe de Sisyphe, il faut se souvenir que nous en faisons constamment l'expérience. Camus décrit de toutes les expériences celles que nous faisons le plus souvent, le plus constamment, qu'on la nie ou qu'on l'accepte. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que qu'on la nie et qu'on bascule dans ce que Nietzsche appelle le nihilisme chrétien, c'est-à-dire qu'on recouvre cette expérience de l'absurde, du sentiment que les choses ne sont pas là par hasard et qu'elles ont forcément un sens. Ou bien qu'on l'accepte complètement, de toute façon c'est une expérience que nous faisons. L'expérience de l'absurde n'est pas une expérience originale. C'est pas une expérience singulière, c'est pas une expérience rare, c'est une expérience fréquente et universelle, mais dont l'universalité ne concerne pas tout le monde, mais chacun. Et donc c'est un universel incarné. Donc en cela, l'absurde est une passion. Et il dit la plus déchirante de toutes. En quoi le dit-il ? Ça c'est fort, je crois, parce que si c'est une passion déchirante, c'est parce qu'au fond, la révélation de l'absurdité, de l'expérience que nous faisons de l'absurdité, expérience que nous faisons avant même de le savoir. On est face au monde, le monde ne nous dit rien, et avant de s'apercevoir que notre malaise, notre mal-être, notre difficulté d'existence tient justement à ce silence ou au contraste entre ce silence et cette demande implicite, implicite ou explicite qu'un homme fait, pourquoi je ris, pourquoi je pleure, etc. Le côté rencontre du terrien en détresse avec une réalité blafarde et mutique, si vous voulez, cette expérience que nous faisons tous, elle est comparable à la philosophie, à l'exercice même de la philosophie. Elle est déchirante parce que on ne peut plus l'oublier une fois qu'on l'a faite. On ne peut pas ne pas s'en souvenir quand on l'a éprouvée. Quand on l'a vraiment éprouvée, quand on a été conscient de l'éprouver, quand on l'a éprouvée et qu'on l'a formulée, elle est indépassable à cet instant-là. À la façon dont est indépassable un problème qu'on s'est formulé dans l'intimité de nos vies et qu'on a soudain retrouvé chez un philosophe. C'est merveilleux, je viens de trouver chez Platon une phrase que je me suis dite le matin même. Grande leçon, non pas d'orgueil, mais d'humilité. Ça ne veut pas dire que je pense comme Platon, ça veut dire qu'on a pensé comme moi avant moi. Cette leçon d'humilité, en quoi consiste la maïeutique philosophique ? C'est-à-dire le fait d'accoucher de son propre savoir. L'une des façons d'accoucher de son savoir, c'est de découvrir dans des textes qui ont été écrits avant soi, eh bien que certains ont déjà pensé ce qu'on croit être les premiers à penser. Ce faisant, on accouche du savoir, on donne à ce qu'on sait une consistance que ça n'avait pas, et ça devient inoubliable. Et l'expérience que décrit Camus, c'est cela. C'est l'expérience d'un étonnement qui, en lui-même, est inoubliable et impérissable, en un sens. Ce qui est impérissable, c'est l'expérience que nous faisons de notre propre caractère provisoire, c'est-à-dire de l'absurdité de notre condition. Elle a valeur cardinale. Le sentiment qu'au fond de toute beauté gît quelque chose d'inhumain est une expérience qu'on ne peut plus oublier une fois qu'on l'a faite. Écoutez Camus, hein, encore une fois, à partir du moment où elle est reconnue, l'absurdité est une passion la plus déchirante de toutes. On le sait que le monde est absurde, qu'il n'est pas là pour nous. On sait tout. Nous savons tout. Mais nous avons à savoir que nous le savons. Et ça, on ne le sait pas. Voilà. La condition de l'homme, c'est ça. Nous savons tout. On sait tout ce qu'il y a à savoir. On sait qu'on est né par hasard dans un monde qui s'en fiche et qu'on va y mourir. Voilà. Et qu'on ne saura pas plus pourquoi on y est né le jour où on sera mort. On sait tout. Nous savons tout. Mais il nous reste à savoir qu'on le sait. Alors, il y a ceux qui ne veulent pas savoir qu'ils le savent et qui, par conséquent, considèrent qu'ils ont une vocation, qu'ils ont une mission. Et qui donc recouvrent cette déshérence, cette déréliction, cette absurdité, cette douloureuse condition humaine du filtre d'un but qui leur permet de mieux vivre, de mieux se porter. Donc ils l'ont recouvert, cela. Mais il y a ceux qui l'assument, et ceux-là savent ce qu'ils savent. Et ça, c'est la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? La philosophie, c'est d'accoucher de ce que nous savons déjà, mais que pour cette raison-là, jusqu'ici, on s'attachait à ne pas dire, ou à ne pas se dire à soi-même. Écoutez Camus, nous vivons avec des idées qui, si nous les éprouvions vraiment, devraient bouleverser toute notre vie. En d'autres termes, et ça c'est intéressant, on dit souvent que la philosophie consiste à passer de la croyance à la raison, de la superstition à l'argumentation, voyez ? Que c'est un progrès vers la rationalité. Qu'au fond, la philosophie convertit ce que nous croyons en choses que nous savons. Mais la philosophie, c'est également l'inverse, exactement l'inverse. La philosophie ne fait pas seulement ce geste qui consiste à mettre de la raison ou de l'argumentation là où il y avait de la superstition ou de la certitude. La philosophie consiste aussi à donner corps à ce que nous savons et que pour cette raison, nous ne voulons pas savoir. En d'autres termes, faire de la philosophie, c'est passer de la croyance à la raison, mais c'est aussi passer d'un savoir abstrait, genre « tous les hommes sont mortels », à une croyance intime, genre « je vais mourir ». Soit parce que je me suicide ou que je suis condamné à mort, peu importe. Soit parce que je suis vivant. Je n'ai pas besoin de me suicider ou d'être condamné à mort. Je suis vivant. Donc, si vous voulez, il y a ces deux mouvements. Une rationalité qui vient prendre le dessus sur la superstition, progrès de la raison en philosophie, et de l'autre côté, une incarnation et une pensée du corps, une physiologie telle que Camus ou Nietzsche excellent à le faire, permet de penser ça justement. Une incarnation de ce dont nous n'avions jusqu'ici qu'une connaissance abstraite, livresque.
Oui, mais ce avec quoi poursuit Camus, c'est de savoir si on peut vivre, si on peut maintenir cette connaissance, cette passion, et qu'on peut la vivre. C'est ça aussi qui m'étonnait.
Camus est formidable pour ça, parce qu'il est d'une extrême tolérance. Camus, quand on le creuse un petit peu, offre à chacun la possibilité de se construire la plus généreuse des morales. Pourtant, c'est un mot qu'il déteste, hein, morale. Mais la plus généreuse des morales. Au fond, ce que Camus permet de penser, c'est que je crois, hein, in fine, mais il faudrait creuser pour cela, enfin, il faudrait reparcourir les étapes qui nous y conduisent, on n'a pas le temps. Mais je crois que Camus promeut, implicitement en tout cas, une éthique ou une morale qui repose sur l'idée que tout ce qui n'est pas donné est perdu. Mais il est extrêmement indulgent avec ceux qui ne savent pas vivre comme ça. Lui le premier! Et il reconnaît à chacun le droit d'être égoïste, justement. Et il reconnaît même tant cela que l'égoïsme lui semble une condition de possibilité, certes non suffisante mais absolument nécessaire, à l'exercice véritable de la générosité.
C'est pour ça que, comme exemple illustre de l'homme absurde, il prend Don Juan. Et quand vous parliez d'éthique de l'homme absurde, qui est promu dans Le mythe de Sisyphe, il y a une confrontation de la qualité et de la quantité. Et c'est un peu surprenant la première fois qu'on lit et qu'on entend que ce qu'il faut prévaloir, c'est la quantité et pas la qualité. Et c'est donc le nombre de femmes plutôt que la femme où on trouverait tout et qui suffirait à une seule vie.
C'est un peu misogyne.
Oui, mais pourtant, en m'entendant face à misogyne...
C'est un peu misogyne.
Et pourtant, en lisant le texte de Camus, on arrive à se persuader que c'est pas misogyne.
Voici ce qu'il dit. Il n'y a d'amour généreux que celui qui se sait en même temps passager et singulier. Ce sont toutes ces morts et toutes ces renaissances qui font pour Don Juan la gerbe de sa vie. C'est la façon qu'il a de donner et de faire vivre. Je laisse à juger si l'on peut parler d'égoïsme. Autrement dit, lecture plate et sotte de Don Juan. Don Juan, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui, et puis surtout qui veut combler le vide de son existence par l'accumulation de conquêtes. À la façon dont Jean-Baptiste Clamence dans La Chute dit « Je changeais de lit tous les soirs, on aurait dit que la justice couchait avec moi tout le temps ». Donc première lecture. C'est le deuxième degré, c'est le plus bête de tous. Il y a le premier degré qui a au moins l'honnêteté de ne prétendre à rien d'autre. Et le deuxième degré est toujours très très bête parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Le deuxième degré, c'est de dire « Oui, derrière cet homme triomphant et triomphal, ce Don Juan, en réalité, il y a une grande détresse, deux, un immense égoïsme, trois, un combat perdu d'avance d'un homme qui veut compenser par la quantité la vacuité de son existence. » Ça, c'est le deuxième degré. C'est en général ce que tout le monde pense. Camus va plus loin que cela en expliquant que, et c'est l'une des phrases qu'il situe au principe du mythe de Sisyphe et de son texte sur Don Juan, il se pose la question suivante, il dit « Pourquoi faudrait-il aimer rarement pour aimer beaucoup ?» Et ce qui est une phrase qui prend totalement le contre-pied de ses idées reçues sur Don Juan. Il n'est pas nécessaire d'aimer rarement pour aimer beaucoup. On peut aimer tout le monde ou plein de femmes et les aimer beaucoup. C'est possible, On a le droit de faire ça. Et il y a dans cette façon de reconnaître à Don Juan une liberté que lui dénie en général ses contempteurs, je crois quelque chose de très important dans l'esprit de Camus. Il s'agit au fond de dire que la générosité n'est pas si ostensible qu'elle n'est véritablement vécue par celui qui assume le côté provisoire, passager, singulier de l'amour qui est le sien. Il faut, pour être généreux, il faut, pour donner, savoir que ça ne durera pas. Et voyez, comme Camus oppose à la logique du suicidé d'autres logiques, l'homme absurde, c'est-à-dire Don Juan en l'occurrence, d'autres logiques qui ne sont pas des logiques de compensation, même si c'est un éloge de la quantité, ce ne sont pas tant des logiques de compensation que des logiques du don. Don Juan, c'est celui qui fait don de lui-même. Il fait don de lui-même, il se dévoue. Au fond, il se dévoue, c'est un éducateur. Don Juan, c'est un homme qui prend des naïves et en fait des femmes. C'est un éducateur, voilà. C'est celui dont le passage dans l'existence est toujours provisoire, mais il est toujours décisif et définitif pour celles qu'on a voulu présenter comme ses victimes et qu'en un sens, Camus tient davantage pour des bénéficiaires. C'est la lecture qu'il propose de Don Juan. Derrière cette lecture de Don Juan, il faut entendre un éloge de la condition d'acteur et également une réflexion sur Kierkegaard lui-même, dans le détail de laquelle on n'a pas le temps d'entrer maintenant. Mais il me semble qu'il y a là quelque chose de... Bah, c'est tout à fait... c'est singulier, au fond. Et puis même, chez Camus, c'est souvent comme ça. C'est fou à quel point Camus ne rentre pas dans les idées reçues qu'on en a. C'est fou de voir à quel point cet homme ne ressemble pas à l'idée qu'on s'en fait. C'est fou de voir à quel point cet homme, si populaire, tellement lu dans le monde, est aux antipodes d'une conscience collective. Même dans l'homme révolté, moi j'irai jusque-là, je dirais que même dans l'homme révolté, même quand le collectif entre et quand il dit « je me révolte, donc nous sommes », je crois que cet homme continue d'être aux antipodes d'une conscience collective. Il n'y a pas de conscience collective. Ou plutôt, la conscience collective vient après coup. Mais pour Don Juan, ce que Camus permet de penser ici, c'est la métamorphose de ce qui semble un égoïsme et un combat perdu d'avance en victoire. En victoire sur tout ce que la vie peut nous conseiller de décourageant. Et en générosité à l'endroit de ces gens à qui l'on ne promet qu'un passage en deux mots qui les rendra moins fous que ce qu'ils étaient avant.
Vous avez parlé de l'acteur, puisqu'on était dans Don Juan, dans le théâtre, et il y a toute une partie donc, du mythe de Sisyphe qui est réservée au statut de l'acteur, parce qu'il fait de l'acteur, justement, toujours dans cette...
Pardon Paola, excusez-moi de vous interrompre. Je retrouve à l'instant, au moment où vous parlez, ce qui prouve d'ailleurs que je regarde mes notes au moment où vous parlez, ce qui n'est pas bien, je retrouve à l'instant un passage dans le mythe de Sisyphe sur Don Juan. Écoutez ça, c'est la logique qui conduit... au meurtre de Don Juan. Un chroniqueur rapporte que Don Juan mourut assassiné par des franciscains qui voulurent mettre un terme aux excès et aux impiétés de Don Juan à qui sa naissance assurait l'impunité. Ils proclamèrent ensuite que le ciel l'avait foudroyé. Personne n'a fait la preuve de cette étrange fin. Personne non plus n'a démontré le contraire. Mais sans me demander si cela est vraisemblable, je puis dire que cela est logique. Je veux seulement retenir ici le terme « naissance » et jouer sur les mots. C'est de vivre qui assurait son innocence, c'est de la mort seule qu'il a tiré une culpabilité maintenant légendaire. C'est la logique qui tue Don Juan. C'est pas Don Juan l'ennemi. L'ennemi, c'est la logique. C'est la logique assassine qui se satisfait de tuer Don Juan et qui croit, en le faisant, contribuer à quelque chose, alors qu'en réalité, elle ne fait que détruire ce qui relevait d'une décision de vie malgré l'expérience de l'absurde. Vous me parliez de l'acteur,
oui,
pardon,
Paola,
je vous ai interrompu, excusez-moi, allez-y.
Je vous parlais de l'acteur et de l'amour de Camus pour les acteurs qui se retrouvent dans le mythe de
Sisyphe. Il adorait les acteurs.
Cela se retrouve dans le mythe de Sisyphe, puisqu'il en fait un petit peu des hommes de l'absurde, des hommes et des femmes de l'absurde, puisqu'ils ont la possibilité de vivre le temps d'une représentation, un destin d'homme qui va jusqu'à la mort pour les tragédies antiques. Et donc, il leur donne une place très importante. Et j'ai trouvé un texte de Jean Villard où, justement, qui parle de Don Juan et qui parle de Camus.
Texte de Villard ?
Oui, un texte de Villard. Je vais vous en lire un tout petit bout. C'est au moment de la mort de Camus, c'est un hommage. Donc, il dit « Au hasard des rencontres, soit à Paris, soit à Avignon, je l'écoutais. Et très attentivement, il connaissait parfaitement bien notre métier, notre destin. À la vérité, il était comme amoureux de nos humeurs, de nos gasconnades, aussi bien que de nos inquiétudes. L'après-midi de la première de Don Juan, en 1944, au Vieux Colombier, il passa au théâtre. Seul dans ma loge, je me battais courageusement avec un soulier de location trop étroit. À vrai dire, j'avais peur du rôle tout autant que je souffrais de la chaussure. Il sourit et, restant dans l'encadrement de la porte de la loge, me dit très doucement qu'en effet, cela a été très grave et qu'il était impossible de jouer le ténorio si on n'avait pas chaussure à son pied. Se moquait-il ? Et oui, et non. Et comme je m'arrêtais de fouiller ma chaussure, il ajouta, très sérieux cette fois, car Don Juan est un danseur. Il partit. Je restais seul, non plus seulement désolé, mais furieux.
Ah, c'est sympa. C'est intelligent.
Don Juan est un danseur, ça rejoint.
Don Juan est un danseur, oui, bien sûr. Et attendez, ce que vous lisez là me rappelle l'anecdote de Michel Bouquet. Michel Bouquet jouant, me semble-t-il, le personnage de Verkovensky dans la mise en scène des possédés de Camus, pour la centième, raconte qu'il y a une scène où il doit ordonner la mort de quelqu'un et il le fait en buvant des petits verres de vodka, coup sur coup. Et pour la centième, Camus s'était amusé à remplacer l'eau qui était dans la carafe par de la vraie vodka. Et Bouquet s'en est aperçu au deuxième verre. Et il s'en est aperçu non pas en buvant le breuvage, mais en voyant en coulisses Camus, mort de rire si j'ose dire, devant Bouquet. Camus adorait les acteurs. Il adorait les acteurs, et pas seulement parce qu'il adorait les actrices. Il aimait les acteurs pour des raisons très, très profondes, je crois. Écoutez-le dans le mythe de Sisyphe, vous avez cité, voici le texte qui vient juste après le moment que vous avez donné. « Il est certain qu'apparemment, pour avoir vu 100 fois le même acteur, je ne l'en connaîtrais personnellement pas mieux. Pourtant, si je fais la somme des héros qu'il a incarnés, et si je dis que je le connais un peu plus au 100e personnage recensé, on sent qu'il y aura là une part de vérité. » Ce paradoxe apparent est aussi un apologue. Il a une moralité. Il enseigne qu'un homme se définit aussi bien par ses comédies que par ses élans sincères. Il en est ainsi à un ton plus bas des sentiments inaccessibles dans le cœur mais partiellement trahis par les actes qu'ils animent et les attitudes d'esprit qu'ils supposent. On sent bien qu'ainsi je définis une méthode. Mais on sent aussi que cette méthode est d'analyse et non de connaissance. Car les méthodes impliquent des métaphysiques. Elles trahissent à leur insu les conclusions qu'elles prétendent parfois ne pas encore connaître. Ainsi, les dernières pages d'un livre sont déjà dans les premières. Ce nœud est inévitable. La méthode définie ici confesse le sentiment que toute vraie connaissance est impossible. Seules les apparences peuvent se dénombrer et le climat se faire sentir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le métier d'acteur est, aux yeux de Camus, non seulement le plus court chemin vers ces vérités qui doivent pourrir, c'est-à-dire ces vérités du corps, mais la métaphore, la parabole de notre condition même. Souvenez-vous du passage de Noces où il dit « j'avais bien joué mon rôle ». Alors qu'il vient de s'asseoir sur un banc, il sort de l'eau, il va s'asseoir sur un banc et il appelle ça jouer son rôle, c'est-à-dire jouer son métier d'homme. Son rôle à lui, c'est le métier d'homme. Voilà, l'acteur mime à l'infini c'est le fait que pour être homme, il faut jouer à être homme. Et qu'il n'y a au fond pas de différence. En fait, ce qui se passe avec le théâtre chez Camus, qui était si important chez Camus. C'est étrange d'ailleurs que cet homme ait été un dramaturge si moyen. En définitive, il n'y a pas de grande pièce de Camus. Je veux dire, Caligula, c'est pas mal, mais c'est pas immortel. Même si ça tient la route, mais enfin bon. Le malentendu, pareil. C'est pas des grandes pièces. Et je cite les meilleurs là. Mais c'est fou ce que cet homme aimait le théâtre pour des raisons profondes. Qu'est-ce qu'il constate ? Il constate que le métier d'acteur est un mélange d'invention et de nécessité. et que ce mélange compose notre liberté même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un bon acteur n'est pas étranger à son rôle, mais qu'il respire son texte. Qu'il marche dans ses pas. Que quand il danse, il danse. Quand il dort. Et qu'il éprouve, enfin, le glorieux sentiment aux yeux de Camus de devenir ce qu'il est. C'est ça qui est important, je crois. C'est que ce que le métier d'acteur met en scène, littéralement, pour Camus, c'est le sentiment que il n'y a aucune différence entre l'amour de la vie et le fait de bien jouer son rôle. Je vous ai cité le passage de Noce tout à l'heure. Écoutez, on va le redonner, c'est pas grave de lire deux fois un texte. Après tout, on a fait l'émission sur Noce il y a presque un an maintenant. « J'avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d'une conscience tranquille. Il y a un sentiment que connaissent les acteurs lorsqu'ils ont conscience d'avoir bien rempli leur rôle, c'est-à-dire au sens le plus précis, d'avoir fait coïncider leurs gestes et ceux du personnage idéal qu'ils incarnent, d'être entrés en quelque sorte dans un dessin fait à l'avance et qu'ils ont d'un coup fait vivre et battre avec leur cœur. C'était précisément cela que je ressentais, j'avais bien joué mon rôle. » En d'autres termes, dire que la vie n'est une scène de théâtre, que tout ça n'est qu'un songe, etc., ou que tout cela n'est qu'un jeu, ne revient pas à dire que le monde est un rêve. Ça revient à dire que le monde n'a pas de reflet, que le monde n'a pas de miroir, ou réfléchir avant de renvoyer une image. Et que du coup, nous ne pouvons que l'interpréter à tous égards. Le jouer, le rejouer, le décrire, et réciter aussi justement que possible un texte qui s'écrit à mesure qu'on le récite. La condition de l'acteur, c'est la quintessence de la condition humaine aux yeux de Camus. C'est presque ce qu'un homme peut faire de mieux, un homme ou une femme. Hein. C'est la persévérance camusienne mise en abîme, mise en scène, mise en lumière. Camus détruit la notion d'identité, il n'y a pas de catégorie d'identité. Enfin, il la détruit en permanence, il la malmène en permanence. Le moi est constamment diffracté, répandu, brûlé par le vent, etc. etc. La catégorie d'identité chez Camus est vraiment abîmée en permanence. Mais cet abîme dans lequel il fait tomber la catégorie d'identité, cet abîme terrible ne l'empêche pas de considérer qu'au fond, si l'on ne sait jamais ce que l'on est soi-même, on a toujours pour tâche d'être le contemporain de soi-même. C'est pas parce qu'on n'a pas de moi qu'on ne doit pas sentir ou éprouver ce qu'on fait. Et c'est ce paradoxe-là qui veut que être le contemporain de soi implique de laisser de côté la catégorie d'identité, c'est ce paradoxe-là qui est montré, manifesté, je crois, par ce qu'il dit de l'acteur et en particulier dans le mythe de Sisyphe. Vous vous souvenez, Paola, de ce que Camus disait de Gérard Philipe à sa mort ?
Oui, plus ou moins, mais ça serait bien qu'on l'entende carrément.
Et là, toutes les paroles sont inutiles, toutes les paroles sont vaines, je ne sais plus comment il dit ça, écoutez.
J'ai connu Gérard Philipe il y a 13 ans, je crois, au théâtre Héberto, où il avait créé ma pièce Caligula. La pièce par elle-même n'était pas destinée à toucher un grand public, mais je suis persuadé que c'est la manière exceptionnelle dont Gérard Philipe la joua qui lui permit d'accéder à ce grand public. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec Gérard Philipe, qui s'était consacré au cinéma et qui, lorsqu'il paraissait sur une scène, paraissait sur celle du Théâtre National Populaire. C'est un métier où l'on ne voit que les gens avec qui on travaille ou bien ses amis les plus intimes. Mais c'est pourquoi Gérard Philipe est resté pour moi. Ce grand jeune homme qui est rentré en 1946 dans mon bureau et qui, avec un mélange de timidité souriante et d'enthousiasme communicatif, me déclara qu'il avait lu le rôle de Caligula et qu'il était sûr de le jouer à ma satisfaction. Et je dois dire que le fameux charme de Gérard Philipe, qui devait imposer la pièce au public, a commencé à jouer d'abord sur moi. C'est pourquoi, pour moi, c'est ce grand jeune homme rieur et charmant qui vient de disparaître de manière consternante. Et sur ce point, hélas, toutes les paroles sont vaines.
Gérard Philipe, vous savez, a été... a interprété Caligula, c'était le premier Caligula, il a créé Caligula. Et je me demande hein, si, quand Camus parle des acteurs, il pense aux acteurs en général, ou il pense pour les hommes à Gérard Philipe et pour les femmes à Maria Cazares, en tout cas principalement. Mais au-delà de ses amours,
Je crois qu'il faut aller du côté de ce que signifie l'exercice du métier d'acteur, c'est-à-dire un oubli de soi qui est en même temps une immense, vaste, merveilleuse coïncidence avec soi, et que cette façon qu'a l'acteur de jouer sur les deux tableaux, de l'oubli de soi et de la coïncidence avec soi, fait de lui presque le Graal camusien, l'ambition camusienne, celui d'ailleurs qu'il n'arrive pas à être. On sent bien quand il lit son propre texte qu'il voudrait être acteur et qu'il ne l'est pas vraiment. Il l'a été, mais au dire même de ses camarades, c'était pas là qu'il excellait.
Je me risque à un parallèle, je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut, mais en écoutant ce que vous disiez sur l'acteur, ça m'a rappelé ce qu'on avait dit en parlant de Pascal sur le fait qu'il faut commencer par s'agenouiller, à jouer, à prier, avant de pouvoir réellement prier.
Mais c'est exactement ça. C'est la même chose. L'existence précède l'essence. Que voulez-vous ? Que ce soit Pascal, Sartre ou Camus qui le dit. Peu importe. L'existence précède l'essence. Alors, Camus n'est pas existentialiste et l'existentialisme n'est pas réductible à cette pensée. Laissons de côté les grandes catégories. On ne fait pas d'histoire des idées ici. Mais bien sûr, c'est ça. Si vous voulez avoir la foi, vous vous agenouillez et vous priez. Quelle forme ça prend chez Camus ? Le père Panloup dans La Peste. La Peste. On fera un jour une émission sur La Peste. Ou deux peut-être. Dans La Peste, que dit le père Panloup ? Qu'est-ce qu'il enseigne dans son second prêche aux Oranais ? Que c'est pas parce qu'on a la foi qu'il faut se battre, c'est parce qu'on se bat qu'on retrouve la foi. Ça se fait dans ce sens-là. L'action est tout, il faut commencer par agir. Et c'est en pensant de cette manière-là que Camus se donne les moyens de penser qu'il est beaucoup plus fatigant de baisser les bras que de se retrousser les manches quand tout va mal. Et c'est là, il faut le dire, c'est là que la lecture de Camus est d'un réconfort extraordinaire. Extraordinaire, vraiment extraordinaire. Je le dis aux auditeurs, si vous êtes, amis auditeurs, de ceux qui ne se trouvent aucune raison de vivre, qui ne voient dans ce néant aucune raison de vivre plutôt que de mourir, ne poussez pas la logique jusqu'à considérer que du coup il vous faudrait mourir, car alors vous pousseriez la logique jusqu'à l'absurde en vous tuant par peur de mourir. Mais lisez Camus. Lisez Camus et vous aurez, en lisant Camus, un homme qui, de la même manière qu'il est capable de convertir l'absurdité en révolte, vous apprendra de quelle façon tirer de ce néant de sens l'énergie de vivre. Et qui vous apprendra qu'une énergie de vivre ou une volonté de vivre qui est suspendue aux raisons qu'elle se donne est une volonté exténuée, alors que le désir de vivre séparément du sens qu'on trouve à la vie elle-même est exactement ce avec quoi il nous appartient de renouer. Et je me demande d'ailleurs si l'ambition de la philosophie, et c'est peut-être là qu'on peut parler d'un suicide philosophique au sens que vous donniez à cette expression, si l'ambition de la philosophie n'est pas de conduire justement vers le sublime irréfléchi, la sublime irréflexion qui veut qu'un individu n'ait pas besoin de trouver un sens à la vie pour agir, mais qu'il parvienne à accomplir quelque chose parce qu'il a agi avant de savoir pourquoi. Pascal, vous avez cité Pascal, Nietzsche, dans le paragraphe 13 de la généalogie de la morale, dans la première dissertation, l'action est tout. Il n'y a pas de sujet agissant. Il y a une action et après il y a un sujet qui vient comme la fine pointe ou la ramification grossière de cette action initiale. Acteur, l'acteur, c'est l'homme d'action. C'est celui qui agit. C'est celui qui agit et qui donne forme à quelque chose par une action qui précède tout et qui renoue avec ce sentiment qu'on vit avant de savoir pourquoi. Donc oui, bien sûr, pleinement, complètement, et la mention que vous faites de Pascal me semble tout à fait pertinente ici. Et d'ailleurs, il y a assez peu de différence entre le dieu de Pascal et le non-dieu de Camus. Le dieu de Pascal n'est pas démontré, n'est pas démontrable, il est caché, et il est promis à ceux qui croient déjà en lui. Camus ne verrait aucun inconvénient à ce christianisme-là. Ça ne le gêne pas. D'ailleurs, il aimait beaucoup Pascal, il avait grande admiration pour Pascal. Il était plus augustinien que pascalien parce qu'il avait plus lu Augustin pour les besoins d'un travail universitaire. Mais là, c'est la même chose. Camus est pascalien. Camus est pascalien. Il n'est pas du tout nécessaire, on l'a déjà vu, de croire en Dieu pour être pascalien. Camus est pleinement, à mon avis, pascalien.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Alors j'aimerais désormais qu'on entende quand même et qu'on parle du mythe de Sisyphe.
Ah, mais la fin, oui, bien
la
sûr.
Fin du mythe peut-être, parce que ça arrive à la fin du livre, donc ça fait sens que ça arrive à la fin de l'émission aussi, mais ça donne son titre à l'essai. Donc.
Ça donne son titre à l'essai, et il faut insister d'abord sur le fait que il faut quand même remarquer la bizarrerie de ce texte auquel les dernières pages donnent son titre. Il n'est pas fait mention de Sisyphe avant la fin. Avant les dernières pages, les toutes dernières pages. Dans l'édition, en fait, désormais, dont nous disposons, ça n'est pas exactement la fin, parce qu'il y a au-delà de cela un très beau texte de Camus sur Kafka, qu'on n'aura pas le temps de lire ou d'étudier aujourd'hui. Mais c'est quand même très frappant dans la structure de ce livre que la fin de ce livre, à l'intérieur d'un livre qui considère que la fin précède le début, on l'a entendu tout à l'heure, la fin donne le titre au livre. Et donc, la fin, c'est la condamnation de Sisyphe.
Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé, avec quelque raison, qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir.
Pauvre Sisyphe. Faut-il plaindre Sisyphe ? Non, nous dit Camus.
Sisyphe est heureux.
Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il y a quand même un effort à faire. Hein. Parce que ce n'est pas gagné au début. Ce n'est pas gagné. Mais c'est vrai que cette dernière phrase, ces cinq derniers mots, résument tout, disent tout du livre. Donc en cela, le livre n'usurpe pas son titre. Le titre n'est pas du tout une énigme. Ce n'est pas comme le nom de la rose ou comme le rouge et le noir, si vous voulez. Non, là on comprend très bien pourquoi ce livre s'appelle Le mythe de Sisyphe quand on lit la dernière phrase. Il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire, il faut faire un effort pour trouver du bonheur dans une activité qui ne promet à elle-même que son éternelle répétition. D'abord, la première chose à remarquer quand même, me semble-t-il, c'est que quand on observe la tâche de Sisyphe, la condamnation de Sisyphe, elle ressemble d'assez près à une autre condamnation dans l'histoire des idées. C'est laquelle, Paola ? L'éternel retour.
Ah oui.
Et oui,
la répétition. Là.
Bien sûr, l'éternel retour dans le Gai Savoir, dans le livre Le Gai Savoir, paragraphe 341, du poids le plus lourd. C'est la même affaire. Que dirais-tu si un jour, si une nuit, un ange venait jusque dans ta solitude la plus reculée et te dise « Cette vie telle que tu l'as vécue, tu devras la revivre un nombre infini de fois. » Est-ce que tu es capable, demande Nietzsche en substance, de trouver dans cette condamnation une bénédiction ? Es-tu capable d'aimer la vie au point d'en désirer le retour éternel ? Y a-t-il dans cette sanction de quoi remplir le cœur d'un homme ? C'est la même question, c'est le même enjeu. Camus ne fait que reprendre ici, à mon avis, avec le mythe de Sisyphe, offre sa propre version de ce qu'il faut bien appeler l'éternel retour. L'éternel retour n'est pas une déclaration ontologique. Il ne s'agit pas de dire que les choses reviennent indéfiniment. C'est peut-être vrai, on s'en fout, on n'en sait rien surtout. Il ne s'agit pas de dire que les choses reviennent indéfiniment. Il s'agit de les aimer au point de supporter que ce soit le cas. De la même façon, il ne s'agit pas de considérer qu'un homme a été condamné à porter une pierre en haut d'une montagne avant qu'elle tombe de l'autre côté. Tout ça est une parabole. Mais il s'agit de considérer que si nous étions dans une telle situation, nous aurions de quoi nous remplir le cœur, malgré la vacuité de notre activité, de notre exercice. Pour comprendre la façon dont Camus parvient à convertir ce qui semble le plus lourd, porter une pierre en haut d'une montagne avant qu'elle retombe. Ce qui est difficile, ce n'est pas de porter la pierre. Ce qui est vraiment lourd, ce n'est pas la pierre qu'il a apportée. Ce qui est lourd, c'est la certitude qu'elle retombera une fois qu'elle sera au sommet. De la même façon, chez Nietzsche, ce qui est très lourd, ce n'est pas que les choses reviennent indéfiniment. Ce qui est très lourd, c'est de l'entendre comme une condamnation. Comment convertir cette pesanteur en légèreté ? Comment on fait ? Comment ça se passe ? Alors, pour Nietzsche, il faut, dit-il, de la bienfaisance et de la bienveillance envers soi-même. Combien ne te faudrait-il pas témoigner de bienveillance envers toi-même pour ne plus rien désirer que cette dernière éternelle confirmation, cette dernière éternelle sanction ? Donc ça, c'est la solution nietzschéenne, camusienne. Pour comprendre comment Sisyphe peut être heureux, pour réussir à imaginer Sisyphe heureux malgré cette activité débile, il faut en revenir un tout petit peu à la figure de Sisyphe, au personnage de Sisyphe. D'abord, Sisyphe, c'est le rusé. C'est le rusé avant Ulysse, dont il est le père. Sisyphe est le père d'Ulysse. C'est le roi de Corinthe. C'est celui qui trompe la mort, une première fois d'ailleurs, parce qu'il demande à sa femme de ne pas lui rendre les hommages funéraires. Comme on lui rend pas les hommages funéraires, arrivé aux enfers, il dit à Pluton, il lui dit « Mais enfin, t'as vu cette histoire, elle m'a pas rendu les hommages funéraires, renvoie-moi sur Terre pour que j'aille punir cette affreuse. » Et le dieu des morts le renvoie sur Terre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la plage, comme Camus. Il va à la plage, il goûte la chaleur du sable, il a pas du tout envie de retourner aux enfers. Donc il y reste. Et là, les dieux l'attrapent au collet et c'est à ce moment-là qu'il est condamné, non pas à mort, mais qu'il est condamné à perpétuité. À perpétuité, à accomplir ce geste-là. Sisyphe, c'est celui qui enchaîne la mort. C'est celui à cause de qui, pendant un moment, les gens ne meurent plus. Et donc, c'est celui que l'on condamne pour ces méfaits-là. C'est-à-dire, c'est celui qui trompe la mort. C'est celui qu'on a condamné parce qu'il avait trompé la mort. Un humain, la condition humaine, interdit de tromper la mort. On peut se tromper soi-même. On peut s'aveugler soi-même, on peut oublier soi-même qu'on va mourir. Mais la mort elle-même, on ne trompe pas la faucheuse. Elle arrive quand elle arrive, et puis voilà, elle n'est dupe de rien, d'aucun de nos paravents, de nos subterfuges, etc. Elle s'abat quand elle a envie de s'abattre. Donc elle tombe quand elle tombe, si vous voulez. Donc on ne peut pas la tromper, la mort. Sisyphe, c'est celui qui parvient à tromper la mort. Et qui, ce faisant, reçoit comme châtiment de mener une activité dont la vanité serait moindre s'il était mortel. C'est-à-dire que c'est celui, si on doit mourir, on en est tous là. On travaille, on accumule des notes, on prépare une émission, puis on fait l'émission, et la semaine d'après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut remettre ça. On remet le couvert. Alors, ce n'est pas la même pierre qu'on porte, parce qu'on fait des émissions sur des livres différents, mais c'est le même travail. On en est tous là, Sisyphe. On part en vacances, la pierre retombe, on rentre à l'un, on est en septembre, on remonte la pierre jusqu'au sommet de la montagne avant qu'elle retombe. Sisyphe, c'est nous. Bien. Mais... Et nous allons mourir. Nous allons mourir. Donc la vanité ou la vacuité de cette activité est d'une certaine façon paradoxalement sauvée par l'imminence de la mort sur chacun de nos actes. Alors que dans le cas de Sisyphe, il est condamné à mener pour l'éternité une activité dont la vanité tient à la mortalité. Et le voilà donc face à un mouvement qui en lui-même n'a pas de fin. Tout ça pour avoir trompé la mort. Pour avoir trompé la mort, on le condamne à mener pour l'éternité la vie d'un mortel.
Mais alors, comment l'imaginer heureux?
C'est ça son châtiment. Comment l'imaginer heureux? Eh bien, de la même façon que l'acteur n'a pas besoin que l'acteur exprime cette vérité très profonde, nietzschéenne et camusienne, savoir que l'action est tout. C'est-à-dire, on commence par vivre avant de savoir pourquoi. L'activité de Sisyphe consiste à pousser un rocher. Il n'est pas attiré par quelque chose, mais il est celui qui pousse. Il est du côté d'un désir pensé comme excès. Et non pas d'un désir pensé comme manque. La figure mythologique du condamné qui incarne le désir pensé comme manque, c'est pas Sisyphe, c'est qui?
C'est Tantale.
C'est Tantale. Le tenté. Enfin, ça s'écrit pas de la même façon, mais c'est Tantale. Tantale, c'est celui qui est condamné à avoir extraordinairement faim, mais il ne meurt pas de faim, il vit de faim. Et soif. Mais qui, quand il s'approche du ruisseau verdoyant, enfin du ruisseau délicat, le ruisseau se retire. Quand il tend la main pour se saisir du fruit, l'arbre redresse ses branches en prenant un air un peu outragé. Donc le châtiment de Tantale, c'est le châtiment d'un désir que l'on n'assouvit jamais, mais d'un désir qui est l'expression d'un manque. Et nous sommes, d'une certaine façon, dans la situation de Tantale, puisque nous n'en avons jamais fini de désirer quelque chose. Et quand on comble le désir qu'on en a, qu'est-ce qu'on fait? On s'ennuie jusqu'au moment où on a de nouveau un désir. C'est la raison pour laquelle on désire toujours décrocher la lune. C'est-à-dire on se donne toujours pour objet du désir quelque chose qu'on ne pourra jamais atteindre et dont on se dit qu'il comblera ou qu'elle comblera définitivement le désir qui nous porte. Ça, c'est la partie tantale de nous-mêmes. La partie Sisyphe de nous-mêmes, c'est la partie de nous-mêmes qui ne désire pas ce dont nous manquons, mais qui désire ce que nous possédons déjà. C'est-à-dire c'est le désir non plus pensé comme manque, mais cette fois-ci pensé comme excès. Et Sisyphe est tout entier l'incarnation de cela. La condition de Sisyphe serait douloureuse s'il avait un but. Mais Sisyphe n'en a pas. Son activité est à elle-même son propre but. Écoutez le texte, Paola. Où serait en effet sa peine si à chaque fois l'espoir de réussir le soutenait? Sisyphe expérimente l'absence d'espoir. Il ne suspend pas son bonheur à autre chose que lui, quelque chose qu'il atteindra ou qu'il n'atteindra pas. C'est, dit Camus, le prolétaire des dieux. Impuissant et révolté, il connaît toute l'étendue de sa condition misérable et c'est à elle qu'il pense pendant sa descente. Résultat, la descente, dit-il, peut aussi se faire dans la joie et, précise-t-il, ce mot n'est pas de trop. Que dit-il?
Toute la joie silencieuse de Sisyphe est là. Son destin lui appartient. Son rocher est sa chose. De même, l'homme absurde, quand il contemple son tourment, fait taire toutes les idoles. Dans l'univers, soudain rendu à son silence, on a vu comment, les mille petites voix émerveillées de la terre s'élèvent. Appels inconscients et secrets, invitations de tous les visages. Ils sont l'envers nécessaire et le prix de la victoire. Il n'y a pas de soleil sans ombre et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'aura plus de cesse. S'il y a un destin personnel, il n'y a point de destinée supérieure, ou du moins il n'en est qu'une dont il juge qu'elle est fatale et méprisable. Pour le reste, il se sait maître de ses jours. À cet instant subtil où l'homme se retourne sur sa vie, Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l'origine toute humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà, merci Paola, merci à tous, c'est-à-dire vous bien sûr, chers auditeurs, érudits, fidèles et ouverts d'esprit, mais aussi, sinon surtout, François Connac, votre réalisateur, Alice Ramon, votre attaché de production, et aux manettes aujourd'hui, Cédric Châtelus, votre technicien. C'est donc la fin de deux émissions sur le mythe de Sisyphe, dont nous espérons qu'elles vous auront un peu donné le goût de remettre les mains, les yeux, le cœur et le cerveau dans ce grand livre, un livre dont la réputation de facilité ne résiste pas, je crois, à une lecture un peu attentive. Lisez donc et relisez le mythe de Sisyphe, comme on passe de la certitude au doute, comme on guérit de la certitude par le doute, en gardant à l'esprit qu'une lecture ne dit jamais le fin mot d'un livre, mais qu'au contraire elle est opératoire quand elle vous laisse perplexe, perdu, sceptique devant l'œuvre que vous ne croyiez comprendre que parce que vous étiez resté à sa surface. De toute façon, nous reviendrons encore maintes fois sur l'œuvre de Camus dans Le Gai Savoir, car ce n'est pas parce que la vie est courte qu'elle doit être petite. On se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures, une nouvelle balade, cette fois-ci dans le tout dernier chapitre des Essais de Montaigne, sobrement intitulé « De l'expérience » et dont, une fois de plus, La lecture en apparence si facile recouvre en réalité des difficultés insondables. Retrouvez-nous également sur Internet, à la page du Gai Savoir ou sur Facebook où vous attendent écoute en ligne, bibliographies et téléchargements. Et enfin, dans l'intervalle, retrouvez les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 11h et sous la houlette d'Adèle Van Rett, vous parleront de démocratie. « 17h sur France Culture, dans un instant, l'atelier du pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini. »